Les voies de service, mercredi 7 mars 2018. Et c'est encore l'hiver. On pensait peut-être que le printemps était arrivé il y a une semaine, mais non, c'était juste pour nous faire rêver un peu. Au micro, Isabelle Falardeau, en compagnie aujourd'hui d'une toute petite équipe composée de Serge Bradet.
Allô, bonjour, bonjour.
Puisque Daniel Lachance est en relâche, parti du Québec cette semaine. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à partager avec nous, Serge?
Eh bien, demain, ce sera... Demain?
Le 8 mars.
Oui, journée des femmes, journée internationale des femmes. Alors, je vais vous parler de ça. Et également, la saga de Michelin.
Les pneus
et le guide.
Ah, ben oui, puis c'est la même compagnie, en fait.
C'est, oui, ben c'est deux frères qui ont parti ça, les frères Michelin.
Très intéressant.
Et ensuite, les pâtes.
Les pâtes
alimentaires.
Ah, allez-vous nous expliquer comment les fabriquer?
Ben, l'histoire des pâtes, tout ça, oui, c'est assez excellent. Intéressant, oui.
Super. Eh bien, de mon côté, puisque vous le dites, comme vous le disiez, c'est demain la journée de la femme. J'ai 4 portraits de femmes autochtones à partager avec vous qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, la santé, les traditions. Alors, ça va être vraiment très, très intéressant, je pense. Et je commence tout de suite avec le portrait d'Adeline Marc. Travailler pour le mieux-être des Innus, c'est le titre de cet article. Tous les 4 articles que je partage avec vous dans ce sujet-là ont été publiés le 5 mars sur le site Espace Autochtone de Radio-Canada. Et celui-ci est signé Émilie Duchesne. Adeline Marc vient d'Unamin Chipu, qu'on connaît sous le nom de la Romaine, une communauté Innue de la Basse-Côte-Nord sans accès routier qui la relierait au reste de la province. Comme beaucoup d'autres, elle a vécu les pensionnats autochtones et a vu les problèmes sociaux se multiplier dans sa communauté. À l'aube de ses 65 ans, elle ne baisse pas les bras. « Encore aujourd'hui, à mon âge, je vais tout le temps me défendre pour moi, pour ma communauté et surtout pour mon terrain de chasse dans le bois. » Les parents d'Adeline, Hélène et William Mathieu Marc, ont vécu une vie de nomade. Mais Adeline a été élevée par ses grands-parents avant d'être obligée de fréquenter le pensionnat Notre-Dame à Meliotenam, tout près de cette île. Avec philosophie, elle raconte que c'est au pensionnat qu'elle a appris la différence entre le bien et le mal. Je ris un peu, mais en fait, c'est un rire jaune. Chez nous, dans ma famille, avec mes grands-parents, on était toujours bien. On se chicanait, mais des grosses affaires comme des viols, on n'a jamais vécu des affaires de même. Et c'est au pensionnat qu'elle a appris qu'il y avait des affaires de même, malheureusement. À l'époque des pensionnats, les prêtres et les missionnaires jouissaient d'un statut d'intouchable chez les Innus. La famille d'Adeline Marc l'avait bien mise en garde de ne pas parler en mal d'eux, ni de répondre à leurs réprimandes. Aujourd'hui, des fois, je me dis, si mes grands-parents étaient ici, ou bien mes parents, je serais allée leur dire « Pourquoi? Pourquoi tu nous disais ça? » Devant tout le mal qu'elle dit avoir vu au pensionnat, Adeline se sentait impuissante. Mais au fil du temps, elle a réussi à passer par-dessus ce sentiment. On n'était pas capable de se défendre, mais aujourd'hui, je me défends beaucoup. À 16 ans, de retour à Unamin Chipu, Adeline Marc travaillait au comptoir de la baie du Tson. Plus tard, elle a étudié la linguistique à l'Université Laval, où elle a travaillé sur l'Inuktitut, une langue bien éloignée de la sienne, l'Innu. Mais déjà, Adeline sent qu'elle n'est pas à sa place, loin des siens. « Je ne suis pas quelqu'un qui est toujours à sa place au travail. Il faut que je cherche d'autres choses parce que ça me dérangeait. En ville, j'aime pas ça. J'aimais mieux être dans le bois. » À Unamin Chipu, Adeline a travaillé au sein des services sociaux de la communauté. Les thérapies en forêt ont été une occasion pour elle d'aider les siens et de passer du temps sur le territoire. Adeline et son mari, Denis Molène, lui aussi engagé dans les services sociaux, ont travaillé dans plusieurs communautés Innues. Leur travail les a menés à Chichat. Excusez-moi, je me suis pourtant pratiquée. Chichatchit, au Labrador, où les enfants de cette communauté vivaient une crise de dépendance à l'intoxication par inhalation d'essence. On a vu beaucoup de choses, comment ça détruisait les enfants, la drogue, l'alcool, le gaz, puis l'intimidation. Beaucoup d'enfants de Chichatchit se sauvaient plusieurs jours dans les boisés dans le but de s'intoxiquer en inhalant de l'essence. Adeline raconte que ses enfants construisaient de petits campements de fortune et se sauvaient à l'approche d'adultes. Ils se cachaient dans le bois, ils faisaient des trous, puis c'est là qu'ils s'allongeaient la nuit. Pour communiquer entre eux, ils hurlaient comme des loups. Adeline et Denis sont allés chercher ces jeunes un par un pour les amener en désintoxication. Depuis quelques années, Adeline et Denis forment une famille d'accueil pour deux de leurs petits-enfants. Les parents ont perdu la garde de leurs enfants, les deux enfants auraient bien pu être élevés dans une autre famille, mais Adeline s'est interposée et est allée en cour pour en avoir la garde. « Quand ils ont ramassé mes petits-enfants, moi j'ai dit non. Ils n'enverront pas mes petits-enfants ailleurs. C'est moi qui vais les garder. Ils vont être plus en sécurité avec moi. » Adeline Mark a organisé plusieurs manifestations pour défendre ses droits et l'intégrité du territoire. « Plus j'apprenais des affaires sur les Blancs, plus on dirait que ça me réveillait. Il fallait qu'on se défende au lieu de tout le temps se cacher. » Même si elle reste active, Adeline arrive à un âge où elle cherche davantage de quiétude. « Pour mon passe-temps, je fais de l'artisanat. Je vis ma culture, puis je m'en vais à la pêche souvent. Je m'en vais camper, chasser avec mon mari, puis mes petits-enfants. » Son projet le plus récent s'appelle « Nutshimit Natukuna, les remèdes de la forêt ». Il vise à documenter et à transmettre les connaissances innues sur la médecine traditionnelle. Cette année, j'ai commencé, mais seulement à ramasser des échantillons. J'avais 6 personnes qui travaillaient avec moi, qui faisaient des recherches. Dans le cadre de ce projet, Adeline a réalisé un film avec le Wapikoni Mobile qui illustre sa démarche. À long terme, elle veut écrire un dictionnaire qui recenserait les plantes médicinales des Innus. Petite parenthèse, je suis allée voir le petit documentaire, là, ça fait environ 5 minutes, 4 minutes et demie. C'est sur Vimeo, et si vous faites une recherche sur Vimeo, sur la page du Wapikoni Mobile avec Natukuna, N-A-T-U-K-U-N-A, vous allez le trouver facilement. Mais je vous préviens, c'est en Innu, alors il faut être capable de lire les sous-titres pour vraiment bien apprécier. À moins que vous ayez tout simplement envie d'entendre la langue Innu, là, c'est une belle occasion de le faire. Alors, donc aujourd'hui, Adeline, malheureusement, doit rester à cette île pour recevoir des traitements médicaux. Elle s'ennuie de sa communauté et des longs séjours en forêt. « C'est comme si j'étais encore au pensionnat. Je suis enfermée dans un appartement. T'es pas chez vous, en ville. Quand tu t'en vas à pied, il faut que tu regardes partout. Mais chez nous, quand je suis à Unamintchipu, je suis libre. Je peux faire ce que je veux. » Quand ses traitements seront terminés, Adeline rêve d'aller voir le territoire de chasse de son père, un territoire qu'elle n'a jamais eu l'occasion de voir parce qu'elle a été envoyée au pensionnat. « Je vais continuer. Les aînés, ils ont vécu jusqu'à 80 ans puis sont allés dans le bois jusqu'à cet âge. Ils sont capables de se rendre là-bas. Alors, pourquoi pas moi? » Alors, par quoi vous commencez, Serge?
Par la Journée des femmes.
Ah, ben oui.
D'ailleurs, vous savez, il y a un autre nom, il y a Journée internationale des droits des femmes. Mm. Moi, j'aime mieux ça, je trouve.
Ben oui, parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir besoin d'une journée... moi, j'ai envie d'avoir toutes les journées, soit pour moi, toute l'année. Mais oui, effectivement, une journée pour souligner qu'il y a encore des femmes dans le monde qui doivent lutter pour leurs droits.
Absolument, oui. Alors, c'est une naissance dans cette journée-là, c'est une naissance dans la mouvance socialiste puis soviétique. Une première journée nationale de la femme, National Women's Day, a lieu le 28 février 1909 à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. Cette journée est ensuite célébrée le dernier dimanche de février jusqu'en 1913. En 1910, à Copenhague, au Danemark, l'Internationale socialiste adopte l'idée d'une Journée internationale des femmes sur une proposition de Clara Zetkin du Parti social-démocrate d'Allemagne et d'Alexandra Kollontai, qui est une menchevique du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. C'est une future commissaire du peuple, sans qu'une date ne soit avancée toutefois. Cette journée est approuvée à l'unanimité d'une conférence réunissant 100 femmes socialistes en provenance de 17 pays. Clara Zetkin souhaite par cette journée contrecarrer l'influence des féministes de la bourgeoisie sur les femmes du peuple. Le déclasse. La première journée internationale des femmes est célébrée l'année suivante, le 19 mars 1911, pour revendiquer le droit de vote des femmes.
Ah oui,
le droit au travail et la fin des discriminations au travail. En Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, Plus d'un million de personnes participent au rassemblement, quand même, beaucoup de gens.
Oui, effectivement.
Un million de personnes, réunir c'est autant de personnes en 1911. Hein. Mm-hmm. Le 25 mars de la même année, un incendie dans un atelier textile de Triangle Shirtwaist à New York tue 140 ouvrières, dont une majorité d'immigrantes italiennes et juives d'Europe de l'Est, enfermées à l'intérieur de l'usine. Cette tragédie liée à l'exploitation des femmes ouvrières a un fort retentissement et est commémorée par la suite lors des Journées internationales des femmes qui font alors le lien entre lutte des femmes et mouvement ouvrier.
C'est triste hein, de parfois se prendre des tragédies comme ça pour vraiment éveiller les esprits.
Oui, 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 oui. En 1913 et 1914, dans le cadre du mouvement pacifiste de la veille de la Première Guerre mondiale, des femmes d'Europe organisent fin février ou début mars des rassemblements contre la guerre. En 1914, c'est le 8 mars qui est retenu. En 1917, en Russie, alors que 2 millions de soldats sont morts pendant la guerre, des femmes choisissent le dernier dimanche de février pour faire grève et réclamer du pain et la paix. Mm-hmm. Ce dimanche historique tombe le 23 février dans le calendrier julien, alors en vigueur en Russie, et le 8 mars dans le calendrier grégorien, le nôtre. C'est le début de la révolution russe. Quatre jours plus tard, le tsar abdique et le gouvernement provisoire accordent le droit de vote aux femmes. C'est en souvenir de cette première manifestation de la révolution que, le 8 mars 1921, Lénine aurait décrété la Journée internationale des femmes. Ici, on l'écrit en russe, mais je ne m'aventurerai pas à vous le prononcer, à moins que vous avez des compétences pour lire le russe, Isabelle.
Écoutez, j'ai suivi russe 101 au cégep, mais c'était il y a 30 ans.
Ah, bon, alors, vous faire un test?
Peut essayer,
non.
Allez-y.
Mais je ne sais pas si c'est...
Non, je suis désolée, trop de lettres.
D'accord. Oui, c'est assez... Alors, il n'est en fait pas certain que Lénine y soit pour quelque chose. Ce serait plutôt la proposition d'une camarade bulgare de l'international communiste. Par la suite, la journée est célébrée dans tout le bloc de l'Est. En France, l'origine du 8 mars remonterait à une manifestation d'ouvrières américaines du textile. Ce mythe naît en 1955 d'un article du quotidien communiste « L'Humanité ». Relatant une manifestation de couturières new-yorkaises un siècle auparavant, le 8 mars 1857.
Ah oui, quand même! Oui.
Cette information...
C'est pas hier.
Oui. Cette information est relayée chaque année par la presse militante du PCF, de la CGT et des groupes femmes du Mouvement de libération des femmes. Mais cet événement n'a en réalité jamais eu lieu. Le jour indiqué tombait même un dimanche. Selon une hypothèse détaillée par Françoise Pic, la journée du 8 mars 1857 est un mythe et l'initiative en revient à Madeleine Collin, féministe et secrétaire confédérale de la CGT. L'internationalisation, voilà, je l'ai dit. Le 8 mars 1967, reprenant l'initiative communiste et à la suite de l'année internationale des femmes de 1975, l'Organisation des Nations Unies adopte une résolution enjoignant à ses pays membres de célébrer une journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale, plus communément appelée par l'ONU « Journée internationale de la femme ». Le 8 mars 1892, à l'initiative du MLF et de la ministre déléguée aux droits de la femme, Yvette Roudy, le gouvernement socialiste français de François Mitterrand donne un statut officiel à la journée en France, quoiqu'aucune loi ni décret ne le mentionne. Les différents thèmes des journées au fil des années, j'en ai retenu quelques-unes.
C'est ça, parce qu'à chaque année, on donne un thème...
Oui. Alors, en 2010, par exemple, donner la parole aux femmes déplacées par les conflits.
Ah oui. C'est tout à fait... C'est encore d'actualité, malheureusement.
Encore, malheureusement, en toujours. Je pense que ça va l'être pour quelques années encore.
Oui.
En 2012, l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Un long titre.
Oui, c'est ça. Il y a des thèmes plus complexes que d'autres.
En 2013... Une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. En 2014, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour pour toutes et tous. Mais c'est vrai.
C'est vrai.
Quand on y pense, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite, saviez-vous, je termine avec, saviez-vous qu'il y a une journée internationale de l'homme?
Ça, j'avoue que je l'ignorais.
Oui, j'ai découvert ça hier, voilà. Ça a été créé en 1997 à Trinidad et Tobago et soutenu par les Nations Unies. Et ça a reçu l'appui des principaux groupes d'hommes aux États-Unis, Europe, Afrique, Asie et dans les Antilles. S'exprimant au nom de l'UNESCO, la directrice de la femme et de la culture de la paix, Mme Ingeborg Brines, dit de cet événement, « C'est une excellente idée et donnerait un certain équilibre entre les genres. » Elle a ajouté que l'UNESCO a hâte de collaborer avec les organisateurs de l'IMD. Alors, la description. Selon ses créateurs, la Journée internationale des hommes est un temps pour mettre en évidence la discrimination à leur encontre dans les domaines de la santé, du droit de la famille, de l'éducation, des médias et d'autres domaines, et à célébrer leurs contributions positives et les réalisations. Au cours de ces derniers... Au cours de ces dernières années, la Journée internationale des hommes comprend des séminaires publics, des activités en classe dans les écoles, des programmes de radio et de télévision, des expositions, des marches pacifiques, des débats et des tables rondes. Observer cette journée annuelle est facultatif et des forums appropriés peuvent être utilisés. Les pionniers de la Journée internationale des hommes ont rappelé que le jour n'est pas destiné à concurrencer la Journée internationale des femmes, mais a pour but de mettre en évidence les expériences des hommes. Chaque année, un thème différent mis en évidence, comme la paix en 2002, la santé des hommes en 2003 et la guérison, le pardon en 2007. C'est pas inintéressant parce que...
Non, mais moi, je pense qu'il y a effectivement des problèmes. Par exemple, on sait que les hommes sont moins portés quand on parle de la santé des hommes, par exemple, comme thème, moins portés à consulter, ils se suicident plus que les femmes. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à... On les force à être des hommes machos, là, qui vont pas parler de leurs émotions, puis ça fait qu'on a plus de problèmes de santé mentale qui perdurent lorsqu'on les adresse.
Je pense qu'il me semble avoir...
De là à dire qu'il y a de la discrimination dans les milieux de travail, j'ai un peu de mal à... c'est pas mon expérience, là.
Ouais. Moi non plus, mais il y a
J'aurais plus peut-être de la discrimination dans le système de justice, quand on va avoir la garde des enfants ou des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a des problèmes qui doivent être... sur lesquels on doit se pencher.
Peut-être de l'image du père, l'image parentale, l'image du
père. C'est ça, exactement.
Je pense que j'avais... À un moment donné, c'était pas de on parlait pas de la journée des hommes, mais il y avait un mouvement qui disait on devrait, nous, les pères, les hommes, plus s'impliquer dans notre rôle de père, être plus là dans l'éducation, avoir le fameux congé parental.
Tout le monde y gagne, hein? Les femmes y gagnent, les hommes y gagnent.
Avoir, entre autres, le fameux congé parental d'un an pour l'homme et d'un an pour la femme, pour permettre à chacun d'avoir une période de qualité avec l'enfant. Longue, là, pas juste une journée ou deux
Peut-être
semaine.
Peut-être qu'on devrait justement leur rendre une certaine partie obligatoire pour l'homme, comme on a fait pour les femmes. Oui. Au début, on a rendu certaines choses obligatoires parce qu'on savait que sinon les femmes n'allaient pas... par exemple, on a rendu obligatoire... j'ai perdu mon idée, mais... Les femmes n'ont plus le droit de prendre le nom de leur mari, là.
Enfin,
il faut faire des démarches, on peut changer notre nom, mais... On savait que on avait peur que les femmes soient influencées par leur mari puis ils le fassent pas, donc on l'a rendu obligatoire. Peut-être que... Puis les hommes, justement, il y a un stigma peut-être dans certains milieux de travail, si les hommes veulent prendre un congé parental et leurs collègues vont les regarder un petit peu. Alors si c'est obligatoire, ils vont dire « Ah, j'ai pas le choix, je dois prendre mon congé parental. » Puis ça va devenir comme ça naturel. Ça, et puis là,
On est parti de loin quand on pense. Ma mère, quand elle s'est mariée, son nom de fille, c'est Louisette Dinel, puis elle est devenue Madame Henri Bradette.
C'est ça, c'est qu'on prenait pas seulement le nom de famille, on prenait le prénom aussi.
Même pas Louisette, elle a même pas gardé son prénom, tu sais.
Alors, merci beaucoup, Serge. Très intéressant tout ça. Dziś młody, jeszcze nie ujechał. Dziś młody, jeszcze do dziadu.
Retour en 1989 avec Cash-Tin. Question piège, Isabelle. Cash-Tin en Innu, que signifie le mot Cash-Tin?
Oh mon Dieu, je l'ai déjà su. Rassemblement, non, c'est pas ça.
Selon les informations que j'ai sous les yeux, ça voudrait dire tornade.
Ah, tornade, je sais pas loin, tornade. Très loin. Alors, il y a 30 ans, c'était à l'époque où j'apprenais le russe au cégep. Il y avait Cash-Tin qui jouait à la radio. Et puisqu'on parle de Cash-Tin, moi je vous parle de Kluan Adamek, qui est à la tête d'une nouvelle génération de leaders autochtones. C'est un article de Marilyn Tétu, toujours sur le site Espace Autochtone, publié le 5 mars. Alors, Kluan Adamek a été la première femme à siéger à l'Assemblée des Premières Nations, la PN, à titre de chef régional intérimaire représentant le Yukon. Et cette jeune femme dynamique dans la trentaine compte déjà plusieurs années d'expérience en gouvernance pour les dossiers autochtones. Nommée en janvier 2018 pour remplacer le chef Mike Smith, décédé en 2017, Kluan Adamek connaît bien les rouages de la PN. Elle avait auparavant conseillé les chefs nationaux Sean Atleo et Perry Bellegarde. La jeune chef régionale intérimaire a exprimé son désir d'amener du changement et une nouvelle perspective au sein de la PN. L'actuel chef de cet organisme, Perry Bellegarde, a d'ailleurs souligné lors de la nomination d'Adamek son leadership, sa voix forte et son dévouement pour divers enjeux, dont l'éducation, la gouvernance et le développement économique. Parfois, les épreuves donnent naissance à des projets plus positifs. Ça a été le cas en 2014 pour Kluan Adamek, qui a décidé de mettre sur pied le regroupement Our Voices, nos voix, après le suicide d'un cousin âgé seulement de 18 ans. Ce regroupement permet aux jeunes des Premières Nations du Nord d'en apprendre plus sur leur culture et d'établir des contacts avec d'autres jeunes, tout en faisant connaître de jeunes leaders autochtones émergents. D'une dizaine de jeunes à la première rencontre de Our Voices, ce nombre a rapidement grimpé jusqu'à atteindre une centaine de participants. De ce processus, nous avons appris qu'on n'a pas besoin de demander la permission pour faire ces choses. En fait, c'est notre responsabilité en tant que jeunes de trouver et de mettre de l'avant des solutions, a déclaré Kluan Adamek lors d'un sommet des jeunes leaders autochtones au Sénat canadien. L'année 2018 marque le 45e anniversaire de la publication d'un document historique « Together Today for Our Children Tomorrow », qu'on pourrait traduire par « Ensemble aujourd'hui pour nos enfants de demain ». Celui-ci abordait ce que les Premières Nations du Yukon envisageaient pour leur avenir, notamment la santé, les revendications territoriales et l'éducation, les bases de l'autonomie des Premières Nations du territoire. Cet accord sera officialisé 20 ans plus tard avec l'Umbrella Final Agreement. En entrevue à Radio-Canada au sujet de ce chapitre de l'histoire du Yukon, Clouane Adamek affirmait que le territoire jouit d'une situation unique avec ce traité moderne. Elle a aussi été active dans plusieurs organismes du Yukon, dont le Bureau du Conseil des ministres du gouvernement du territoire, et la jeune femme a également été directrice des relations gouvernementales pour l'entreprise de télécommunications Northwestel. Clouane Adamek jouit d'un riche bagage culturel. La jeune femme de la Première Nation de Clouane, qui porte le même nom qu'elle, donc puise également ses origines au sein des communautés autochtones Tlingit et Southern Tocktone. Sa mère a, elle, des racines allemandes et irlandaises. Son nom traditionnel est Aage et elle vient du Daklawedi Killer Whale Clan, nom qui pourrait se traduire par la tribu des orques. Clouane Adamek parle également très bien le français, qu'elle a appris grâce au programme scolaire d'immersion française. La danse tient une place importante dans la vie de la jeune leader autochtone. Elle est membre de la troupe de danse Daka Kwan et a dansé sur la colline du Parlement à Ottawa pour le lancement des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération le 1er juillet 2017. Au cours des prochains mois, Clouane Adamek compte mettre l'accent sur son nouveau rôle de chef régional intérimaire en favorisant, entre autres, l'engagement communautaire et le soutien des jeunes. Elle ne sait pas encore si elle va postuler pour le poste permanent au mois de juin, mais parions que la gouvernance autochtone fera encore partie de son quotidien. Alors, c'est ce qui met fin à la première partie de vos voix de service. On vous revient après une courte pause.
Shine on!
John Lennon, Instant Karma.
Merci beaucoup. Et je vais prendre, puisqu'on parlait de quoi on parlait dans cette chanson-là?
Du karma.
Du karma. Alors, ce qui est important, c'est de prendre en main son propre karma, enfin, de peut-être prendre en main les choses qu'on peut changer, parce que le karma, en fait, on n'est pas supposé de pouvoir y changer tant que ça. Alors, c'est important pour ça, l'éducation, hein? Prendre en main son éducation, c'est vraiment pas mon meilleur lien jusqu'à maintenant. Alors, je vous parle de Mariette Sutherland, grande protectrice de l'éducation des Autochtones. Toujours un article publié sur Espace Autochtone le 5 mars, et c'est signé Caroline Bourdua. Alors, cette femme, mère de famille de 51 ans, a passé toute sa vie dans la Première Nation de Whitefish River, à l'ouest du Grand Sudbury. Depuis l'obtention d'une maîtrise en santé publique à l'Université de Waterloo, où elle a travaillé sur des centaines de projets liés à la santé des peuples autochtones. Présentement, mon travail consiste à développer une stratégie participative des Premières Nations afin d'étendre les services de santé publique dans les collectivités autochtones. Avant de se joindre au bureau de santé publique de Sudbury et Manitoulin, Mme Sutherland était gestionnaire d'un centre de santé pour autochtones. Mon but a toujours été de participer à des initiatives visant à faire des Premières Nations des communautés en santé. Mon expertise est utilisée pour développer divers modèles de prestations de services de santé, un travail que j'effectue depuis maintenant une quinzaine d'années. Madame Sutherland croit qu'il est important que les outils élaborés pour les collectivités autochtones soient confiés à une personne du milieu, parce qu'il y a beaucoup de ponts à construire entre les non-autochtones et les autochtones, notamment sur la compréhension des besoins de ces communautés, dit-elle. Et les études universitaires sont une des pièces du casse-tête pour assurer le bien-être des collectivités autochtones. Selon Mme Sutherland, il est bien connu qu'une éducation de qualité mène à un bon emploi bien rémunéré, car ce sont tous des déterminants sociaux qui influent sur la santé des populations. Comme beaucoup de jeunes, Mme Sutherland a dû s'expatrier dans le sud de l'Ontario pour fréquenter l'université. Pour un non-autochtone, il est parfois difficile de comprendre ce que l'on ressent. À mon arrivée à l'Université de Waterloo, j'ai échoué à tous mes cours. Je n'avais aucune idée de comment demander de l'aide à mes professeurs et encore moins à mes collègues étudiants. Je me sentais très isolée en tant qu'Autochtone à l'université. Mariette Sutherland loue le progrès des établissements postsecondaires concernant l'accueil des étudiants issus des Premières Nations. On en a parlé ici à ce micro un peu de certaines initiatives dans les universités justement pour mieux intégrer les personnes issues des Premières Nations. La mère de trois enfants a bien l'intention de pousser ceux-ci à faire des études universitaires. Ma mère travaillait pour le conseil scolaire local et était enseignante en langue autochtone. Pas étonnant, dit-elle, que ses 8 frères et sœurs aient tous fait des études postsecondaires. Dans ses passe-temps, Mariette Sutherland se consacre à la danse traditionnelle. C'est aussi une autre forme d'éducation et il est important de comprendre notre propre culture, notre peuple et notre langue. Nos anciens sont de très bons enseignants. Madame Sutherland espère perpétuer la tradition tant qu'il sera possible de le faire. Selon Mariette Sutherland, les femmes autochtones recherchent toutes les occasions pour honorer et respecter leurs consœurs. Et la journée du 8 mars est une de ces occasions. Parce que nous avons encore beaucoup à faire pour assurer que les femmes autochtones soient en sécurité et qu'elles soient reconnues comme elles devraient l'être, je suggère aux différentes communautés de souligner davantage l'apport de la femme autochtone à travers diverses activités et cérémonies. Pour sa part, le fait de s'être prêtée à cette rencontre pour parler de la femme autochtone, c'est en quelque sorte sa contribution. Alors, de l'université, on s'en va au restaurant et aux pneus.
Michelin, oui, exactement. C'est dans la revue. Mes deux prochains sujets, la saga Michelin puis les Pâques, dont je vais vous parler tout à l'heure, ça vient de la revue Secrets d'Histoire, une des éditions de 2018. On ne me dit pas quel mois. Alors, voilà. Donc, la saga de Michelin, c'est un article de Dominique Roger. Tout pour la route et au service de l'automobile. Liste. Tel pourrait être le slogan de Michelin qui, dès le développement de l'automobile, a multiplié les inventions pour rendre la circulation plus facile aux chauffeurs. Refaisons un petit bout de chemin en regardant dans leur rétroviseur. Les frères Michelin, tout d'abord, Édouard Michelin, 1859 à 1940, est un artiste peintre. Son frère, qui a vécu de 1859 à 1940, son frère André Michelin, 1853 à 1931, est ingénieur diplômé de l'École centrale. Frère fondateur de la nouvelle société Michelin et compagnie en 1889, il travaille de concert à développer leur entreprise. Le premier commercialise les pneumatiques, le second est l'homme d'une communication audacieuse et de projets visionnaires. Et regardez la photo, cette photo, on dirait des jumeaux.
C'est vrai, presque, ils se ressemblent vraiment beaucoup. C'est incroyable. C'est sûr qu'ils ont la même barbe et les mêmes lunettes, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. Oui. Mm-hmm.
Alors, la fulgurante réussite de l'entreprise s'explique en grande partie par les talents complémentaires des frères Michelin. Tous deux ont une vision moderne et innovante de l'entreprise. La saga de l'entreprise clermontoise Michelin débute en 1889 lorsque Édouard Michelin prend les rênes de la fabrique de machines agricoles et d'articles en caoutchouc qu'il rebaptise Michelin et compagnie. André et Paul, son frère, et les deux inventeurs et hommes d'affaires, développent des pneumatiques à chambre à air pour vélocipèdes. Très vite, l'évolution de l'automobile contribue à l'essor du pneumatique. Les frères Michelin qui font preuve d'un sens aigu des affaires, d'un opportunisme commercial et d'une audace créatrice, dès 1898, le bonhomme Michelin, le bibendum, est créé par l'affichiste au galop. Ils vont donc exploiter le filon de l'automobile. En 1900, paraît le premier guide Michelin, surnommé le guide rouge, dont les intentions éditoriales et commerciales sont claires. Le guide Michelin souhaite donner tous les renseignements utiles à un chauffeur voyageant en France pour approvisionner son automobile, pour la réparer, pour lui permettre de se loger et de se nourrir, de correspondre par poste, télégraphe ou téléphone. Il est enrichi d'une liste d'établissements hôteliers et de bonnes tables.
Et donc, le lien est effectivement logique entre le guide de Michelin et les pneus Michelin.
Oui, oui, oui. Édité à 35 000 exemplaires et offert gracieusement au chauffeur d'une automobile. Bien, il faut dire, il trouve son public. À noter qu'en 1910, ne roule sur notre territoire que 5 000 véhicules.
C'est ça, c'est ça.
Il y a eu 35 000 exemplaires, 30 000 ont été vendus, puis 5 000 gratuits.
Oui, oui.
À l'intérieur, un questionnaire appelle les lecteurs à être participatifs. Sans les chauffeurs, nous ne pouvons rien. Avec eux, nous pouvons tout. Hé là là! À leur charge de relever d'éventuelles erreurs, d'apporter des précisions, notamment sur les dépôts d'essence et de charges électriques, parce qu'il y avait des charges électriques à l'époque, de classer les garages en fonction de leur équipement et même de la qualité de l'accueil et des prestations. À partir de 1926, le guide, qui propose une édition millésimée, revue et augmentée tous les ans, enrichit son offre en créant un classement des tables gastronomiques. Les fameuses étoiles Michelin constelleront jusqu'à nos jours l'histoire de la gastronomie française. Les pionniers des trois étoiles sont Fernand Point à Vienne et la mère Brasier à Lyon en 1933. Toujours dans les premiers tours de roue de ce 20e siècle, Michelin, grand facilitateur de la route, crée le Bureau des renseignements pour le voyage automobile, qui prend le nom de Bureau des itinéraires en 1919. De quoi s'agit-il? D'un service auprès duquel les automobilistes demandaient qu'on leur mitonne un itinéraire sur mesure.
C'était l'ancêtre de Google Maps, finalement.
Ah oui, oui, oui. En 1925, le Bureau des itinéraires, ancêtre du site Internet via Michelin, traite plus de 150 000 demandes pour un parc automobile qui avoisine le million de véhicules.
Quand même.
En 1925, les Michelin ont l'idée de rassembler les itinéraires d'une même région pour les éditer en un seul et même guide. La Bretagne est la première destination servie en 1926, assortie de l'avertissement, guide entièrement rédigé par une équipe de 4 observateurs circulant dans une auto spécialement aménagée. Quel était l'aménagement de la voiture, on ne le dit pas.
On le dit pas.
En 1937, le guide Château de la Loire inaugure la formule d'une collection axée sur la découverte d'un tourisme culturel populaire qui fera Florès le guide vert régional. Ce dernier ne bougera guère sa formule jusqu'à l'orée des années 2000. Assez stable.
Mm-hmm. Ouais.
André Michelin a travaillé au service cartographique des armées. Il a pu mesurer l'utilité d'un tel objet, alors pratiquement inconnu, des civils. Alors que se déplacer en automobile sur la route française demeure bien aventureux, là encore, le chef d'entreprise auvergnat innove. La première carte routière grand public se déplie sur le capot des autos en 1910 et son aire géographique concerne Clermont-Ferrand et ses environs. L'astucieux pliage accordéon, 2 fois 10 plis de 11 cm par 25 cm, est encore celui que l'on connaît aujourd'hui.
Ah, puis ça vient de Michelin, c'est intéressant ça.
Entre 1910 et 1913, Michelin réalisera la couverture nationale en France en 47 cartes à l'échelle 1/200 millième. Il serait à l'origine du code de la route.
À l'origine du code de la route.
Offrir un vade-mecum de la route à ses nouveaux utilisateurs est une chose, permettre aux automobilistes de se repérer en est une autre. Michelin va donc jalonner les bords des routes de repères et d'indicateurs visuels. Le premier essai d'unification internationale de signalisation routière se déroule à l'occasion de la Conférence diplomatique internationale de Genève en 1909. C'est à cette période qu'André Michelin se lance dans la signalétique routière et une communication marketée des plus modernes, voire visionnaires. Commence à apparaître dans nombre d'agglomérations des plaques municipales Michelin, sur lesquelles indiqués les noms des localités, la désignation et le numéro des routes, les mentions de sécurité « Veuillez ralentir » à l'entrée de la commune et « Merci » en sortie de ville. En 6 ans, 30 000 plaques émaillées offertes gracieusement par le sponsor fleurissent dans les provinces. Mais au sortir de la guerre, André Michelin entreprend de renseigner les automobilistes, de les guider visuellement en créant des plaques de lave émaillée supportées par de massifs supports en béton armé résistant aux intempéries. On les voit ici sur la photo.
Ah oui, c'est assez massif quand même.
Oui. Cette signalétique sera régie par une série de circulaires ministérielles, puis par un décret portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage. Aujourd'hui, le groupe Michelin est le deuxième fabricant de pneumatiques au monde. Présent dans 17 pays, il totalise 111 708 salariés. Il a déposé 305 brevets en 2015 à lui seul, permettant à la ville de Clermont-Ferrand, siège social de l'entreprise, de se classer au 6e rang national des villes les plus innovantes. Le Reputation Institute, organisme international qui distingue les marques selon leur réputation, a élu pour la 3e année de suite Michelin en tête du classement connu pour la France et à la 13e place au niveau mondial.
Eh bien, merci beaucoup, Serge. Je vais maintenant vous parler donc de cette 4e femme autochtone, Dr Nadine Caron, militée en faveur de la santé sans discrimination, toujours publiée le 5 mars sur Espace Autochtone et signée Marilyn Tétu. La chirurgienne générale de l'hôpital général de Prince George en Colombie-Britannique, Nadine Caron, est une pionnière sur plusieurs plans. En 1997, elle a été la première femme autochtone canadienne à obtenir un doctorat en médecine et récemment, elle a mis sur pied avec une équipe de chercheurs la Northern Biobank, une banque de données pour étudier le génome des Premières Nations. Quand Nadine Caron parle de basketball et de ses années passées à jouer avec l'équipe universitaire de l'Université Simon Fraser, la SFU, elle a des étoiles dans les yeux. Celle qui rêvait d'être une joueuse étoile nationale de ce sport a choisi de poursuivre sa carrière dans une salle d'opération. L'intérêt pour le corps humain était déjà bien ancré en elle puisqu'elle étudiait au baccalauréat en kinésiologie. À cette époque, des joueuses de l'équipe de basketball ont été invitées par un de leurs commanditaires, qui travaille dans le domaine médical, à se rendre dans une université américaine pour y visiter leur département de médecine. Nadine Caron accompagnera un chirurgien du Tennessee dans une salle d'opération et sera émerveillée par le sentiment de calme qui règne lors de l'opération et l'effort de concentration exigé. C'est à ce moment qu'elle a su que la médecine serait sa voie. Nadine Caron était une étudiante exemplaire qui a obtenu une vingtaine de prix et de reconnaissances universitaires au cours de ses études à la SFU. Elle a poursuivi sur le chemin de l'excellence avec ses études en médecine à l'Université de la Colombie-Britannique, UBC. Elle compte également parmi ses diplômes une maîtrise en santé publique de l'Université Harvard, qu'elle a obtenue alors qu'elle faisait sa résidence de médecine, et un diplôme de recherche postdoctorale en chirurgie oncologique endocrinienne de l'Université de Californie à San Francisco. Alors, elle a fait quelques études, Mme Caron. Elle a grandi à Kamloops au sein d'une famille composée d'une mère Ojibwe venant de l'Ontario, d'un père d'origine italienne et de trois frères. Sa mère a aussi fait figure de pionnière en étant la première de son pensionnat autochtone à obtenir le diplôme de l'école secondaire. Elle est ensuite devenue enseignante. C'est en 2005, après ses études en médecine en Californie, que Nadine Caron décide de revenir à la maison en Colombie-Britannique. Elle s'installe au nord, à Prince George, où elle travaille comme chirurgienne générale pour l'hôpital général. Sa priorité devient rapidement d'offrir des soins de qualité aux communautés autochtones, mais aussi aux populations nordiques et rurales. Nadine Caron dit avoir constaté, au cours de ses études en médecine, du racisme et de la discrimination envers les Autochtones. Très tôt dans sa carrière, elle s'est servie de sa pratique médicale et de son enseignement, puisqu'elle est professeure adjointe à la faculté de médecine de l'UBC, pour former une nouvelle génération de professionnels de la santé provenant des Premières Nations, et également diminuer les disparités dans les soins que reçoivent les communautés autochtones, nordiques et rurales. Dans une entrevue accordée en 2016 à l'animateur Peter Mansbridge de CBC, la docteure Caron affirmait que ce qui est le plus difficile dans son métier, c'est le côté affectif. Il faut apprendre à se faire mutuellement confiance entre médecin et patient, peu importe son bagage culturel, son origine. Dans la même entrevue sur les ondes de CBC, Nadine Caron, qui est très humble, ajoutait ne pas parler de son bagage autochtone avec ses patients, qui ne sont pas issus des communautés autochtones. Le plus récent projet auquel collabore Nadine Caron est le Northern Biobank. Cette banque de données de l'Université de la Colombie-Britannique a pour objectif d'étudier l'ADN des Premières Nations. Il n'existait pas, avant ce projet, d'infrastructure pour étudier la génétique et l'histoire médicale des peuples autochtones du Canada. Le partenariat vise ainsi non seulement à acquérir l'information, mais aussi à impliquer les communautés dans le processus de décision, la gestion des données et la réflexion sur les questions éthiques, soutient Nadine Caron. La chirurgienne, qui est responsable de la Northern Biobank, a tenu à ce que ce projet soit mené entièrement par des membres des Premières Nations. Il est essentiel pour Nadine Caron que les jeunes autochtones sachent qu'il n'y a pas de barrière, qu'ils ne sont pas seuls, un message qu'elle transmet dans ses conférences, dans son enseignement et dans sa pratique médicale. Et de la santé, ben, on va à l'alimentation. La santé, l'alimentation, les pâtes.
Les papates, oui.
Toujours pas aussi bonnes pour faire des liens, excusez-moi.
Ah, je m'excuse d'avance, là, Isabelle, Jean-Sébastien, les gens qui nous écoutent. Je vais vous mettre l'eau à la bouche, mais c'est
on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, il faut que je lise. Bon. Ouais. Alors, farfalle, fusilli, lasagne, macaroni, tagliatelle, spaghetti, penne, autant de noms qui mettent immédiatement l'eau à la bouche. Ils évoquent des odeurs d'ail et de tomates, des envies de parmesan et de gorgonzola, le soleil et les dîners entre amis. La pasta règne sur la cuisine conviviale, qu'elle soit italienne, chinoise ou mondiale, un article de Françoise Surcouf. D'où viennent les pâtes? Chine ou Italie?
C'est vrai qu'on a toujours appris que ça venait de la Chine.
Ni l'une ni l'autre. Leur origine se perd dans la nuit des temps. Elles sont probablement nées au début du néolithique, lorsque les hommes se sédentarisent, cultivent les céréales et les moulent en farine. La légende qui en fait un produit rapporté d'Asie par Marco Polo a été forgée de toutes pièces par par le Macaroni Journal, revue des industries américaines des pâtes. Nous savons désormais que les Grecs et les Romains produisent et consomment des laganones. Apicius, le grand gastronome, donne ainsi plusieurs recettes de lagana, dont on alterne les couches avec une couche de viande, en somme les premières lasagnes.
Wow!
Eh oui. Pâtes fraîches et pâtes sèches. Difficiles à conserver, les pâtes fraîches préparées à base d'œufs, d'eau et de farine de blé connaissent bientôt une éclipse, jusqu'à l'invention de la pasta secca, la pâte sèche. Mm-hmm. Les nomades de la péninsule arabique en seraient les précurseurs. ne disposant pas assez d'eau pour en préparer chaque jour, il décide de faire sécher les pâtes sur des supports de bois et les calibre en petits tubes. Au début du 12e siècle, dans un ouvrage destiné au roi de Sicile, l'écrivain Abu Idris décrit cela avec force précision. Bientôt, de nombreuses villes portuaires en fabriquent et les exportent. L'épopée de la pasta commence. Recette moyenâgeuse. Les Italiens du Moyen-Âge ne dégustent pas les pâtes comme nous le faisons aujourd'hui. Ils les font cuire dans du lait ou du bouillon. Les assaisonnent de sucre, de fromage, de beurre et d'épices.
Ah oui.
Oui, il faut attendre le 18e siècle pour que l'art culinaire fasse sa révolution et le distinguo entre plat salé et sucré. À dater de cette époque, l'Europe privilégie les sauces à base de tomates, de viande et de légumes pour accommoder les macaronis ou les spaghettis. On bannit désormais les épices, sauf le poivre et la muscade, et les mélanges sucrés-salés à présent réservés au temps de disette. Petite anecdote, moi, un de mes amis avait son propriétaire était italien, et il avait connu la Deuxième Guerre mondiale, il demeurait en Italie à ce moment-là, et il disait que tout ce qu'ils avaient pour se nourrir, c'était des pâtes. Et leur mère faisait à peu près pas cuire les pâtes. Elles étaient très, 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 très dures, ce qui fait que remplissait beaucoup l'estomac. Et ça, ça donnait, ça
digérer,
apaisait la faim.
Ouais.
Ouais.
Mm-hmm. Eh ben.
Le cas des raviolis.
Ça pourrait être le titre d'un documentaire, le cas des raviolis.
En ce qui concerne le ravioli, deux écoles s'affrontent. D'aucuns affirment que les Chinois ont inventé le yaozi, J-I-A-O-Z-I, une technique spéciale de fourrage des pâtes que les Italiens, quand ils la découvrent, renomment raviolo. Il est farci de viande, de légumes ou de fromage. Selon d'autres sources, il vient du sambusage, S-A-M-B-U-S-A-J, créé à la cour de Perse et qui subsiste en Orient sous le nom de samosa. Si sa version frite se présente sous forme de triangle, de carré ou de rectangle, celle bouillie prend l'allure de croissant ou de demi-lune. Sauce et cuisson, en terminant.
Ben ça, vous avez déjà réussi à me donner faim, là.
La pasta al dente apparaît à Naples. D'ailleurs, le propriétaire de mon ami était de Naples, me souviens. Au 19e siècle, sous la plume de Cavalcanti, un gastronome préconisant de cuire les pâtes en préservant leur croquant. Une façon qui gagne peu à peu le reste du monde. Il a aussi l'idée d'ajouter de la tomate, le pesto, comme son nom à la Genovese l'indique, a vu le jour à Gênes. Une recette fort simple. Ail, basilic, fromage et huile délicieuse. Ces dernières années, les chefs rivalisent d'inventivité, accommodant les pâtes avec des sauces aux truffes, aux asperges, aux noix, au gibier. Je pense qu'on s'en va tous dans un restaurant italien pour dîner. Il faut cela pour rendre hommage à un aliment aux 400 variétés.
Ah ben oui, vous avez raison. On a tous hâte maintenant au dîner.
Oui.
Merci Serge. Le premier diplôme en droit autochtone sera offert à Victoria. L'Université de Victoria a annoncé qu'elle offrira le premier diplôme en droit autochtone au monde grâce au financement annoncé dans le budget de la Colombie-Britannique. C'est un grand pas en avant, affirme Val Napoléon, professeur agrégé de justice et de gouvernance autochtone à l'Université de Victoria et membre de la Première Nation de Saulteaux. Elle se réjouit car ses collègues et elle ont travaillé d'arrache-pied depuis une décennie pour que ce programme universitaire d'enseignement du droit des Premières Nations puisse voir le jour. Au terme des 4 années, les étudiants quitteront l'université avec 2 diplômes universitaires, un en common law canadienne et un autre en droit autochtone. Les cours comprendront la protection de l'environnement, la gouvernance autochtone, le logement ainsi que l'éducation et la protection des enfants. Et c'est déjà la fin de cette émission du 7 mars 2018. Merci beaucoup à tout le monde. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Serge Bradet. Moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis à la semaine prochaine et puis profitez bien de votre relâche si vous en êtes et sinon, bon courage!